Bonjour, chers amis. Comment allez-vous? Comment vas-tu, cher François Ricaud?
Je vais bien, je vais bien, je suis ravi d'être là,
Oh,
avec
bien,
toi, en ta compagnie.
ce ravissement est comme celui des bergers de la crèche.
Absolument.
D'ailleurs, tu y ressembles. Ouais, d'ailleurs, au lieu d'avoir un mouton, nous avons un cochon, là, comme tirelire. Voilà, c'est effectivement un peu différent.
Oui, ce n'est pas le même
Le
usage.
cochon est ressource, mais le mouton aussi. Enfin, je change de sujet. Content de te voir. Quelle était l'émission que nous avions fait ensemble? Tu me le rappelles?
Nous avions parlé de Cyril Dion et puis d'une demoiselle dont le nom m'échappe là, qui fait partie de ma vie. C'est-à-dire, c'est des poètes que j'avais eu le plaisir de découvrir en me promenant dans des librairies et en ouvrant les. Et puis, il y a trois mots qui attirent et puis on garde le livre et on le lit. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec Benjamin
Eh bien
Fondane.
voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui, à travers toi, Benjamin Fondane, qui effectivement est une étrange personne, si j'ose dire, dans la mesure où ce Roumain, quand il arrive ici, eh bien il va tout d'un coup changer de langue et il va adopter le français, mais c'est plus compliqué que ça.
Oui, parce que je pense que dans la tradition roumaine, on parle français. J'ai eu enfant l'occasion de travailler avec mon père travaillait en usine et dans l'industrie. Il travaillait à Saint-Gobain et il travaillait avec un ingénieur roumain qui parlait parfaitement français, mais un français même
Oui, je te
exemplaire.
rappelle qu'on appelait Bucarest, que je connais très très bien, où j'ai travaillé, à propos d'artistes, on appelait le Petit Paris.
Voilà, mais avec un léger accent sur le
Ah oui,
R,
le Petit Paris.
qui est absolument délicieux. Et je pense que Benjamin Fondane est dans cette tradition-là. C'est-à-dire que je pense qu'il a appris le français très jeune, qu'il l'a pratiqué, ce qui explique la maîtrise absolument ahurissante qu'il a quand il écrit. Mais bon, il se trouve que moi, je connaissais de nom Benjamin Fondane, je n'avais jamais rien lu. Et puis, je suis tombé sur une réédition tout à fait récente, d'ailleurs, de ses poèmes en français.
Chez Verdier.
Voilà. Et puis j'ai ouvert et j'ai été estomaqué, abasourdi, impressionné par la qualité littéraire de ce poète. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a un souffle intérieur que je trouve tout à fait remarquable.
Alors, je dois dire que cet homme qui, malheureusement, est mort dans des conditions terribles, puisque dans le camp d'extermination d'Auschwitz.
Oui.
Voilà, et qui d'ailleurs ne s'appelait pas Fondane, mais Wechsler. Pourquoi a-t-il choisi, c'est une curiosité, le nom de Fondane, sais-tu?
Non, je
Voilà.
n'ai que très peu d'éléments sur la biographie de ce qu'il en est dit. Et j'avoue que je suis pas très biographiste, par goût,
Oh, mais on
mais
dit biographe plutôt que biographiste, parce que je
oui,
vais me
non.
faire allumer par la radio
Non, mais
avec ce néologisme très particulier que tu viens de nous servir.
le néologisme a pour but de dire que des fois, on s'intéresse beaucoup trop à la vie des gens et plutôt qu'à leur œuvre. Un biographe suit la personne qu'il examine et qu'il étudie dans sa vie, mais la mode est aujourd'hui à tout expliquer par la vie, ce qui me paraît un peu court et un peu faux. C'est-à-dire que je pense que l'œuvre conduit plus l'homme que l'homme conduit l'œuvre. Et dans le cas de Fondane, je pense que c'est beaucoup de choses qu'il a écrites en français sont pleines non seulement de ce qu'il vit et du moment où il vit, mais d'une aspiration qui dépasse très très largement ce que sa biographie nous amènerait à penser.
Alors, pour tout te dire, hein, je n'ai rien inventé, tu aurais pu vérifier il a écrit, puisque nous sommes avec la poésie, dans quelque chose qui est très particulier, on l'écrit ou très jeune ou très vieux, mais souvent on l'écrit très jeune, et il a été très précoce. Dès le départ, dès l'âge de... Il avait moins de 15 ans quand il a écrit dans une revue symboliste en Roumanie, et il a pris le nom de plume, je lis un document là, qui est le nom de Fondoianu, du toponyme romain Fondoaia. Hein, Fondoaia. Et quand il est arrivé à Paris, adapté en quelque sorte ce pseudonyme et il en a fait Fondane. Donc non, mais c'est très intéressant dans la mesure où ça veut dire que d'abord il avait le sens de l'adaptation. Après tout, quand on est juif, on a le sens de l'adaptation. Et puis d'autre part, il était fidèle à ce qu'il était jeune homme.
Oui. Autrement,
et bien entendu, on entend bien. Il se trouve que j'ai tellement d'amis roumains et c'est la seule langue avec l'italien qui soit aussi proche du latin dans notre Europe contemporaine. Et il a, bien sûr, il est lié à la Fondation. Alors, la revue dans laquelle il écrivait, très jeune, c'était une revue symboliste. Et donc, Fondation, c'est vraiment symbolique. Il se trouve que nous enregistrons là ce jeudi 12 mars. Eh bien, il y avait au jeu des 1000 francs sur France Inter, une question à laquelle, très étonné, j'étais. Les deux candidats n'ont pas su répondre. Quel est le mot qui signifie dispersion? C'est évidemment diaspora.
Oui.
Eh bien, effectivement, il y a pour moi, dans cette idée-là, toute l'idée de la contradiction juive, et comme ce qu'il écrit est profondément juif, n'est-ce pas, dans une sorte de désespoir de l'anéantissement, parce que c'est une poésie que j'aime infiniment, mais lire Benjamin Fondane, ça me donne envie de me suicider à chaque fois. Pardon de dire ça comme ça, mais beaucoup plus que Cioran. Et Cioran en est un autre du même pays. Et de fait, être juif, c'est à la fois être de fondation et en même temps dispersé, ou plus exactement universel. Là, je dis ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce monde où eh bien, il y a un peuple élu qui est réuni dans un pays, mais il est dans tous les pays du monde. Et cette notion d'être fondateur et en même temps séparé, elle est extraordinaire. Et dans Benjamin Fondane, il y a une poésie strictement tragique.
Oui, parce que c'est son sentiment du monde, parce que c'est quelqu'un, mais que je comprends assez, enfin, il y a un certain nombre de choses, alors peut-être que je m'attribue des choses qui relèvent de lui et pas de moi, mais moi, étant né à l'étranger et étant...
Tu es né où ?
Je suis né en Espagne, et j'ai probablement parlé espagnol avant de parler français. J'ai vécu 10 ans, et j'ai vécu ce qui en Espagne est considéré comme le plus grand malheur, el destierro, l'exil. Et j'ai été extrêmement malheureux quand je suis arrivé en France, parce que j'ai trouvé ce pays extrêmement laid, extrêmement ennuyeux. Paris, quand on est né au bord de la mer, qui est dans un pays qui ressemble à la Bretagne, plus au sud, donc des avantages de la Bretagne et du sud.
Je sens l'hymne là se dérouler.
Voilà, donc arrivé à Paris où il fait gris, où il fait froid, où le temps est moche, et les gens ne sont pas gentils. Maintenant, je suis un Parisien... qui n'a pas l'intention de quitter Paris, donc j'aime Paris, mais j'ai mis du temps à m'adapter. Et je pense que je pense que cette idée de devoir quitter l'endroit dont on est et dont on garde des racines, parce que Fondane fait souvent référence à ses racines,
et oui, Fondation.
Sans pour autant vouloir y retourner. C'est-à-dire que, en fait, je pense que plus qu'un juif, c'est un juif errant. C'est le juif.
Bah, d'ailleurs, le premier grand tome, si j'ose dire, de ses œuvres complètes s'appelle Ulysse.
Oui, mais bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que pour lui, Ulysse est le juif errant, ou ce qui veut dire quelque part que l'élément important, c'est l'errance. Et je pense que très profondément, son sentiment du tragique, c'est justement dans le sentiment, dans cette obligation de la perte, et en même temps de la nécessité d'avancer et d'aller devant, de ne jamais abandonner. C'est quelqu'un qui a dû abandonner, qui donc connaît le prix de l'abandon, et en même temps qui continue à avancer et à essayer de vivre avec ces éléments-là. C'est vrai, et il est bien évidemment juif, mais je pense que c'est quelqu'un surtout qui exprime un sentiment qui est, je crois, celui de notre monde aujourd'hui, la nécessité pour beaucoup d'hommes de partir, de quitter, de ne pas pouvoir rester, et de vivre cela comme un, non pas un malheur, mais une contrainte indépassable, quoi. Donc, à ce moment-là, l'écriture est pour lui peut-être la seule médication qui existe pour lui.
Je voudrais lire le chapitre 14 de cet Ulysse, si tu permets.
Je t'en prie.
Oui, j'ai aimé le monde. Combien de fois, soleil, te saluai-je d'avoir halé ma transparence. Je m'étais couvert de ma voix, je m'avançais dans le silence qui crissait. J'aimais les forces, les écorces, les bœufs qui touchent de leur front le vide. Les choses calmes, apaisantes, calmes. Les paysans, la voix hâlée, la peau tannée, la nappe tranquille du calme. Le monde, le voici, et me voici tout plein des morsures de l'air. Le sang tourné, caillé dans ma chair, une rixe invisible de coq. Où aller ? J'ai appelé sur moi l'orage, le naufrage. J'ai crié « Nom de Dieu !» J'ai frappé, hagard. J'ai éventré le soleil. J'étais ruisselant de sommeil. Par où commencer ? Où finir ? Pourquoi ces questions se posent-elles ? Que faudra-t-il haïr, en fin de compte ? Aimer était trop enfantin. Le monde est là, je m'y agrippe, je m'accroche de mes deux mains, je ne lâche pas cette proie, je la marque de ma puissance, je la couvre de mes empreintes. J'étais en train de le modifier, je sais. Je n'avais pas perdu confiance. La solitude n'était pas venue. Le dégoût ni l'ennui n'étaient là. Ne rien pouvoir tenir en main, voilà la fin. Sous les paupières closes, y avait-il des yeux ? Mes mains s'étaient fermées sur leur propre creux. Mes mains étaient vides, bien sûr. J'avais aimé, j'avais haï le vide. Inutile de sanglots au bout de moi-même, moi-même. Toujours moi-même, plein de bave, plein de lave, moi-même dans le temps. Plein de besoins, plein d'appétit. Plus grande ma soif que le monde, plus grande ma faim que le monde. Pas de chanson, pas des chansons. Personne de qui espérer du secours. Nul dieu sanglotante ou féroce. Qui prier? Qui frapper au visage? Nulle voix apaisante, désaltérante. Nul visage.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On s'endort au soleil qui nous caresse. Et l'on paraisse sans songer à demain dans mon île. Ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou. Sous le grand cocotier qui se balance en silence, nous rêvons de nous. Dans mon île, un parfum c'est faufile dès la fin du jour. Elle accourt m'étendant ses bras dociles, douce et fragile, dans ce plus beau atout. Ses yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin et nous jouons au jeu d'Adam. « facile qu'ils nous ont appris. Car mon île, c'est le paradis.
Voilà que nous étions en pleine discussion. Pourquoi le choix de cette séquence musicale, cher François Rico ?
Parce que c'est un bon exemple. C'est une chanson d'Henri Salvador qui est chantée par Caetano Veloso, qui est un grand musicien brésilien et qui, en la chantant, l'a fait adopter par la musique, par les Brésiliens. Et cette chanson est maintenant considérée comme une maison, une chanson brésilienne. Ça me paraît un bon, une bonne image
de l'adoption.
Voilà, de Benjamin Fondane, qui est un roumain, qui commence par écrire en roumain, qui écrit des pièces de théâtre, qui est un critique littéraire, puis qui un jour arrive en France, continue à être roumain, mais devient français. Et quand on voit sa biographie, l'intervention, les relations qu'il entretient, c'est quelqu'un qui est complètement fondu dans le paysage littéraire de cette époque qui est pleine de gens tout à fait remarquables.
Oui, il est devenu un des grands représentants du surréalisme.
Voilà, et qui a trouvé sa place. Mais c'est cette idée que on peut apporter quelque chose et en faire quelque chose qui devient un bien culturel de l'endroit où elle est. Et ben cette chanson d'Henri Salvador, qui est une chanson française, dont la version française est absolument ravissante, et tout d'un coup, Caetano Veloso la chante et elle prend une dimension beaucoup plus large et elle peut à ce moment-là être entendue par d'autres.
Comme il était un disciple de Chestov, il a considéré que la culture... Et c'est ce qui m'a beaucoup touché chez lui, en lisant sa biographie, sans être biographiste, c'est qu'il considérait que écrire, c'était une lutte, et une lutte pour la liberté.
Oui, absolument, ça se sent bien dans son écriture. Ce que je disais lorsque je pensais que le monde est tragique, je l'interroge, je parle, je pose toutes les questions, je suis suffisamment lucide pour ne pas éviter les questions qui sont des questions vitales, mais écrire et l'arme de Fondane, c'est l'écriture, c'est son arme pour être vivant, pour ne pas abandonner. D'ailleurs, jusqu'au dernier jour, avant d'être déporté et qu'il ne puisse plus écrire, il écrit. Il écrit même alors qu'il est arrêté, et son obsession est de préparer, de rassembler son œuvre, de rassembler ses écrits pour en faire quelque chose qui ait un sens.
Dans l'Exode, c'est un de ses ouvrages, n'est-ce pas ? Il écrit dans la préface en prose, « C'est à vous que je parle, homme des antipodes, je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. » Et il continue ainsi, « Mon sang est sur les routes, puisse-t-il ne pas crier vengeance ?»
Voilà. Cette préface, il l'écrit alors qu'il est arrêté et qu'elle doit servir de préface à ce recueil qui existait avant. Oui. Donc, en fait, il n'a jamais cessé de regrouper, de modifier, d'enrichir, de corriger, parce que, pour lui, il fallait compléter le paysage des questions qu'il posait pour comprendre ce qui se passait. Et je trouve sa lecture très vivante. C'est tragique parce que le monde dans lequel il vit est tragique. C'est difficile parce que son parcours de vie et quand elle est difficile, et en même temps on a un homme debout, un homme courageux, qui regarde l'adversité et qui ne baisse pas les bras. Et ça...
Est-ce que tu as choisi un poème que tu voudrais lire ?
C'est-à-dire que le problème, c'est que j'étais parti, moi, celui qui m'a le plus frappé, mais qui reste le plus... C'est le premier, dans Ulysse, le premier texte. « J'étais un grand poète, né pour chanter la joie, mais je sanglote dans ma cabine. » Des bouquets d'eau de mer se fanent dans les vases. L'automne de mon cœur mène au Père Lachaise. L'éternité est là, œil calme du temps mort. Est-ce arrivé vraiment que d'arriver au port ? Armand, ta cendre pèse si lourd dans ma valise. Voici ta vie immense qui fait sauter les ponts. Tu sais nager, je sais, mais que le fleuve est long. Nous étions écrasés par cette lumière inhumaine. Pourquoi chanter à tue-tête ? Gorge pleine, qui ne demande qu'à chanter ? Si le château était tenté, Si les dieux s'amusaient à nous prendre pour cible, tu es entré vivant aux mains du dieu terrible et jusque dans la mort, tu es resté vivant. Quand le flot ne veut-il qu'emporter, océan, ta vague furieuse fouette le vieil automne. Il y a, dans cette manière d'écrire, je retrouve, moi, la musicalité de Racine, celle de Victor Hugo, cette espèce de rythme intérieur qui fait que tout d'un coup, le français devient une langue musicale, totalement musicale. Par expérience, pour avoir chanté beaucoup de chansons anglaises, l'anglais est très facile à chanter, parce qu'on peut avaler des mots. En français, on ne peut pas, on est obligé dans la diction. Et en même temps, quand c'est très bien écrit, ça chante toujours. La poésie chante toujours. Voilà. Et Fondane fait chanter.
Oui, et il y a une preuve que l'on est poète, pour en avoir lu des milliers de poètes. C'est particulièrement vrai en français, mais comme je parle d'autres langues, c'est lorsque les mots viennent bien sur la langue. Lorsque quelqu'un croit faire de la poésie et qu'il n'est pas poète, les mots sont quasiment imprononçables la suite des uns des autres. Mmh. Ils ne filent pas comme un collier de perles. Oui. Ils ne coulent pas comme les molécules de l'eau. Ils ne sont pas agencés de manière à être dans cette fluidité d'inséparable, parce que c'est la fluidité des inséparables, oui. En somme, cette poésie. Et je dois dire que le poème, moi, qui me touche le plus en tant que poète, puisque voilà, c'est ce poème qu'il intègre en premier dans son recueil au temps du poème. Et ah oui. Je voudrais en lire deux, trois extraits avant une seconde plage musicale. Moi aussi de retour parfois en un moi-même à peine déplié, où coule un rue glacé tout scintillant de brème, extrême et oublié. Je m'ouvre au vieux décor, esprit piqué de guêpe. Écoute dans l'enfant le bois tendre et moisi, où mûrissaient des cèpes, où vieillissait l'étang. Que de fois, moi aussi, dans les roseaux sans âge, je me suis comparé au cri silencieux de la poule sauvage tombée dans le marais.
C'est ce qui est remarquable dans ce recueil, c'est parce que souvent, les autres recueils, c'est un texte qui... c'est un flot. Là, dans cette partie, ce recueil-là...
Là, j'ai lu, par exemple, les trois premières strophes de la séquence 1.
Mais c'est la poésie, pour le coup, extrêmement classique. On va un peu plus loin et on trouve... un sonnet. C'est-à-dire que là, on sent bien, non pas qu'il s'astreint, mais qu'il trouve dans la structure d'un certain type de poème français qu'aurait pu écrire dans la forme un Musset, un Victor Hugo...
Un Ronsard. Parce que, puisque après tout, j'ai été élu prince en poésie, et je suis le successeur de Ronsard.
Amour en poésie, Ronsard.
C'est vrai. J'ai beaucoup de vertus à aimer Ronsard, parce que c'était un poète catholique au service des rois de France contre la réforme protestante. Il gagnait sa vie à écrire cruellement contre mes ancêtres.
Hein. Bon, Agrippa d'Aubigné, c'est défendu.
Oui, assez bien. C'est bien. Mais non, je veux dire, Ronsard est notre père à tous. Et je reviens à cet aspect formel. Justement, dans une autre émission, je critiquais un peu le déversoir que représente la poésie contemporaine, ses énumérations, ses inventaires, ses répétitions, sans contrainte, sans forme. De temps en temps, et pour des gens qui aiment me lire, et pour moi-même, je me dis, tiens, un soir, tu vas écrire en vers. Et j'écris en vers avec toutes les libertés possibles, mais en respectant des rimes très riches. Et finalement, tout naturellement, quelque chose me revient évidemment de mes lectures, de mes études, de la fréquentation des poètes dits classiques. Qu'est-ce que ça veut dire classique, n'est-ce pas? Mais parce que ça, c'est des mots qu'on a. Ils n'étaient pas classiques au moment où ils l'ont écrit. Donc oui. C'est comme le gothique n'a jamais existé. Au XVIIIe siècle, quand on le traitait de barbare, c'est ce temps des cathédrales. Oui. Mais je veux dire, effectivement, de temps en temps, il y a cette sorte de nécessité de l'ordre. Et cet ordre-là, fait entendre quelque chose qui est à mi-chemin entre nous-mêmes et la poésie. C'est-à-dire que la forme poétique, eh bien, nous oblige peut-être, à travers cette rigueur, à revenir à quelque chose qui, sans nous éloigner de nous, nous rapproche de l'autre.
Oui, mais je pense que la forme oblige à couper court, à ne pas se répandre, à se concentrer. Quand on écrit un sonnet, on a 14 vers, point. Et si on lit un sonnet élisabétain ou un sonnet de l'amour courtois italien, ça n'a pas la même forme qu'un sonnet français. Mais en même temps, il y a une structure et on a la nécessité de rentrer dans cette structure permet de peut-être quelque part de donner une épaisseur à la forme qu'elle n'aurait pas si on était dans des vers libres. Voilà.
Je voudrais, avant la deuxième séquence musicale, lire encore un extrait de son œuvre et qui est une œuvre quasiment terminale. Vous avez vécu et tenu l'affiche, prenant pour fétu rime et hémistiche, enjambant le verre, ouvrant la fenêtre dans un univers qui n'a pas de maître. Maître au sens de la mesure, bien sûr. Oui, votre chanson, pour son air d'aigle, n'eut point de rançon à payer aux règles. Vous avez vécu, certes, sous ce tendre, c'est d'un feu vécu l'authentique cendre. Ai-je fait de même? Me suis-je vraiment enterré vivant au cœur du poème? De l'âme trop pleine, le vers sonne creux. Paris et Hélène, Tristan et Iseute. J'y trouve beaucoup d'humour.
Oui, ah, oui. Et non, mais toujours.
Et cet humour-là, il est juif. Cet art de se moquer de soi-même, n'est pas courant dans la poésie.
Non, dans la poésie, c'est rare qu'on ait l'humour et du second degré.
Et oui.
Mais c'est son talent, parce que si on lit dans ses textes, souvent il y a une espèce d'envolée lyrique, il y a un départ, ça part. Et à un moment, au détour d'un vers, il va y avoir le mot, le petit détail qui tout d'un coup fait revenir à des choses beaucoup plus terre-à-terre ou...
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the heart.
baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On écoutait Jeff Buckley chantant Leonard Cohen.
Coulent les jours. À l'heure qui n'est pas celle des montres, où je me penche à la fenêtre des mondes inconnus, me voici perché au-dessus du vertige, dont je sais qu'il met en péril mes certitudes, et je le veux ainsi. De touche en dièse et bémol, je choisis de descendre ou monter, sans barreau d'échelle, ni ange à combattre, pour me trouver en promenade, depuis l'île océanique, où m'ont conduit les rêves, marchant sur l'eau des vents. J'envoie les bouteilles à la mer, où habitent nos voiliers miniatures, emportant galets et autres souvenirs d'explorateurs. De l'autre côté du monde, sans guerre ni autre tremblement de terre ou de ciel, se réunissent écumes et nuages. Alors, où nous retrouverons-nous, me demande le philosophe frère et la muse sœur de mon enfance, jusqu'à nos lendemains sous octave et pastel. Ici comme ailleurs, nous nous sommes assez attendus pour que nos patiences prennent nos lèvres pour les laisser traversant le silence des aveux transcendants. Un poème écrit récemment.
Magnifique.
Voilà, coulent les jours, oui, coulent les jours depuis le temps que nous nous retrouvons, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, au micro, dans le studio, que je vois peu à peu changer. Nous avons gardé, là, boulevard Murat, l'envers du mur qui longe l'avenue, avec ses sculptures d'un premier emploi des lieux, qui représentent de manière un peu figurative un rêve de voyage, mais le reste change. Mais voilà, il y a toujours une trace de mémoire. Et je parle de la mémoire parce que Mnemosyne est bien présente là. Chez Benjamin Fondane, sa mémoire, elle est au fil des jours, chaque présent, jusqu'au bout. Être présent jusqu'au bout. N'est-ce pas le message de la poésie, cher François?
Ah, c'est certainement une présence, mais c'est une présence inspirée, c'est une présence avec une grille de lecture. Ce qui est magnifique chez Fondane, c'est comment le vécu de l'instant permet de retrouver des racines, des références historiques, que ce soit littéraire, on va aller chez Ulysse, on va aller chercher dans la culture européenne qu'il maîtrise très loin, que ce soit pour retrouver les liens, le fil avec le texte biblique. À certains moments, il retrouve des...
Ah, il y a des accents absolument de la Bible.
Voilà, on retrouve une rythmique, on retrouve une mélodie, on retrouve une manière, une scansion qui relève des psaumes, qui relève du cantique des cantiques. Voilà, il y a une musique intérieure, mais c'est ce qui lui permet, et je crois que c'est ce qui est intéressant, fondamentalement lumineux chez Fondane, c'est en même temps le fait d'être vraiment dans le monde dans lequel il est, et dans le, qui est très impressionnant, puisqu'il se termine malheureusement à Auschwitz, et terrifiant, et en même temps de quelqu'un qui a un parcours qui est le juif errant dans quelque part presque dans son dans sa synthèse la plus pure, et en même temps le moyen d'interroger le monde et d'y être présent, et tout ça en étant dans une référence culturelle profonde. Voilà, c'est quelqu'un qui est parti mais qui n'est pas déraciné. C'est de la garder ses liens en profondeur.
Dans un recueil qui s'intitule « Ville », et chacun sait à ce micro à quel point je suis attaché aux villes, puisque tel est mon métier, dans l'architecture, l'urbanisme, il y a un passage que je voudrais que vous entendiez, chers amis auditeurs. De toutes parts, la vie éclate. De toutes parts, des paroles, des cris, des balles, des épluchures. Et les lumières traînent leurs robes de soirée. Qui versera cette nuit dans le goulot des nuits? Voici que le travail s'écoule des gouttières humaines. Les sirènes d'usine ont cessé d'agiter notre sang. Liberté! Une femme s'avance devant nous comme une île flottante bientôt, mangée par les brouillards. Et le bateau s'éloigne avec ses musiques loufoques d'une solitude à une autre. Il n'y a qu'une rue. Une rue comme toutes les rues avec des hommes usés, enceints de quelque mal ancien qui ne pardonne pas. Une femme avance et son cœur frappe dans le corsage. Un monde de désirs équivoques éclate ça et là sur les tâches que font les pays sur le globe. La gloire tourne et les tâches tournent ainsi dans la nuit. Je marche dans le sens inverse pour finir le mouvement, pardon, pour fuir le mouvement. De toutes parts la vie éclate, de toutes parts sur le trottoir une ombre pèle. Que n'ai-je point assez? Vie usée en quête d'autres vies usées. Nous cherchons nos plaisirs avec des organes usés. Le cri du plaisir est plus rauque que l'aiguille des phonos. De foire, la musique enfin s'est dévêtue. Ô nuit peuplée de faces exsangues et grimaçantes, on avance lentement, il y a place dans les vitrines du sommeil, les montres se sont arrêtées et le temps commence. Assez crié, assez sangloté, assez fui. Assez baisé, assez vomi dans les ténèbres, assez rangé, les unes après les autres, les fourmis du savoir, assez enragé, assez connu, les soleils de la faim, la ténèbre secoue le prunier des visages. Assez sauté de roc en roc, de vie en vie. Liberté! À présent, le sommeil nous est dû, sur un lit, sur un ventre, ou le plancher avache. Nous avons accompli notre devoir de vivre. C'est beau, la vie. La mort est une autre chanson. D'autres êtres paniquent. Vagissent déjà accrochés au sein plantureux de la femme. Partons. Cher François, partons, mais pour où ? Toi qui es venu d'Espagne, qui t'es établi ici, qui y est bien, s'il y avait l'occasion, tu partirais ? Je te sens toujours en partance.
Oui, je suis. Moi, je
pour te bien connaître.
Oui, je ne suis jamais arrivé. Non, mais c'est ce que je ressens profondément chez Fondane, justement. C'est le problème aujourd'hui que j'ai, notamment avec les jeunes que je connais, c'est que voyage sans besoin. Moi, j'ai voyagé par contrainte. Je n'ai pas choisi de voyager, je n'ai pas choisi de naître en Espagne, je n'ai pas choisi de venir. Et je pense que...
Tu n'as rien choisi ?
J'étais enfant.
Tu as été choisi par ta femme, d'ailleurs.
Voilà, mais... mais moi personnellement, j'allais dire, je vis ici, si je vis ailleurs, je vis ailleurs. Mais je ne vais pas aller vivre ailleurs pour vivre ailleurs. Si je suis quelque part, j'y suis vraiment. J'ai cette sensation, ce cousinage avec Fondane, qui est que la vie nous fait parcourir un chemin qu'on n'a pas forcément toujours choisi. Parfois, on choisit une destination. Mais d'ailleurs, quand on lit Fondane, on voit bien qu'il arrive en France et à un moment, il se pose même la question de partir aux États-Unis. Il l'évoque à certains passages. Donc, cet endroit-là est celui où je suis aujourd'hui et peut-être pas demain. Et moi, j'ai cette sensation aujourd'hui qu'effectivement, nous sommes là, présents. Il faut y vivre vraiment. Il faut intensément l'occuper, le partager, l'enrichir. Et en même temps, cet endroit, il y a vaut un autre endroit qui peut être aussi bien où il y a autant de choses à faire et la vie et ça je c'est cette peut-être cette sensation de l'errance comme une destinée humaine qui me paraît une immense valeur. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui on est dans un monde où on rassemble des gens qui sont là sans le vouloir, et on ne leur explique pas que c'est une immense opportunité. C'est pas dans la propriété, c'est dans l'existence que se trouve le bonheur, la présence à ce que l'on est et à ce qui se passe. Et je crois que beaucoup de gens vivent dans la récrimination. Et moi, ce que j'aime chez Fondane, c'est cette sensation que malgré toute la difficulté à vivre ce qu'il vit, il y trouve quand même moyen d'en faire une richesse, puisqu'il le livre dans un texte. Il l'écrit, et ce texte nous laisse le plaisir, le bonheur, la sensation de comprendre et de se dire, mais oui, il a raison. Il se passe des choses, et toutes ces choses... Et ce ne sont pas des grandes choses. Ce sont des choses, comme tu dis, de la ville, de la rue. Il parle souvent des gens qu'on croise. Il n'y a aucune ambition de pouvoir, aucune revendication de richesse, il y a simplement l'impératif de la présence. Être présent à ce qui est.
Mon père, les soirs d'attente où l'homme est soudé au comptoir, la bouche de mon père, le buveur, est plus rouge que le froid sur la poigne du marin. Il rentre queue basse dans la cuisine, et puis sa colère au battoir sourd fait une musique d'enfer sur les joues de femme. Chienne de vie, qui aboie au loup à la lune infâme, qui se moque pas mal des ombres épaisses de l'alcool. Il s'approche de nous, la bave des yeux sur le col de sa chemise lui fait une auréole basse presque sainte. La bière ou le cidre se mélangent à la peur des nuits qui se coulent sous les draps entre la basse enceinte des premiers désirs. Il montre une face ridée où l'ennui a usé la peau jusqu'au papier. Mon père, pourquoi n'aimes-tu pas la vie et ton fils, repoussant comme un cochon, en es-tu fier ? Le délire déforme son ventre en polochon à voix de soldat. La radio crache une chanson de Dranem. La rivière qui passe sous la maison boue sa lessive. Je glisse lentement avec le temps qui n'a plus soif. Un instant, il reprend une sorte de dignité lascive, puissance admirable qui ordonne l'ivresse et la coiffe d'écume brillante. Alors, il tombe au fond de mon amour, comme un prophète silencieux. Longtemps après la mort, quand rien ne rimera plus avec néant, je t'aimerai, mon père, qui m'a confié à la mémoire que je leurrai.
Extrait d'un disque que j'ai enregistré il y a quelques années et qui est dédié à mon père et qui est biographique.
Ça se sent, mais bon, c'est un peu vertigineux.
C'est vertigineux et ça décrit le Delirium Tremens et ses suites. Voilà, j'y consacre un roman d'ailleurs l'année prochaine. De fait, j'ai pensé que ce texte était en consonance avec Benjamin Fondane, parce que il y a quelque chose que je voudrais dire à tous nos auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie, c'est que la poésie m'a appris à ne jamais mentir, car elle ne peut pas mentir, dans la mesure où elle est comme les juges des voiles enfrinées. Elle est strictement la vérité. Elle est au-delà même de la vérité qu'on avoue, elle est la vérité qui se manifeste.
Oui, moi je crois beaucoup que la poésie nous permet de voir ce qui est là et que nous ne voyons pas. Oui. C'est à la fois une nouvelle lumière et c'est à la fois une grille qui nous permet tout d'un coup de découvrir que la terre est bleue comme une orange.
Que la terre est
bleue comme une orange.
Oui.
C'est Éluard l'a dit avant qu'on l'ait vu, et nous l'avons vu après, du ciel. C'est cette chose, comment est-ce que...
Là, tu dépasses la notion de vérité pour aller vers l'autre fonction de la poésie, qui est Cassandre, et c'est la ville de Troie, et c'est la divination. Effectivement, puisqu'il se trouve que je conjugue dans ma vie être poète et médium, effectivement, je ne sais pas si le médium est poète ou si le poète est médium.
Le poète est certainement médium.
Oui.
Le poète voit ce que les autres ne voient pas et qu'il voit le jour où lui l'a dit. Il voit, il dit et on voit. Mais ce qu'il voit, pour voir ça, il faut être un peu...
Un peu médium.
Un peu au-dessus, un peu à côté, un peu devant. Oui, pendant ce temps-là, évidemment, François Rico
Et merci de nous offrir Benjamin Fondan, nous racontait l'histoire de cette mélodie extraordinaire. Peut-être peux-tu désannoncer, comme on dit à la radio.
C'est Jeff Beck qui joue un morceau dont le compositeur, le nom m'échappe pour l'instant, malheureusement. Mais il lui confie ce morceau un soir, alors qu'il était en train de travailler. Et Jeff Beck est un fou de bagnole et de mécanique. Il lui dit non, ce soir je m'occupe de mes voitures. Et le lendemain matin, quand ils se retrouvent, Jeff Beck arrive, prend sa guitare et joue cette mélodie parfaitement et mieux, en rajoutant un certain nombre de détails techniques. Et ça a sidéré ce compositeur qui disait cet homme est un. Mais il refuse qu'on puisse de montrer qu'il travaille. Il ne travaille pas. La musique est un. Sa pratique musicale est une liberté pure.
Liberté.
Alors que. Il a travaillé comme un chiffonnier pour obtenir ça, quand même. Ce que je peux vous dire, ça n'arrive, il est le seul à savoir le faire.
Oui, vous avez entendu, chers amis, peut-être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, là, de ce que je pourrais appeler l'équivalent. Et, puisque j'ai été, dans mon enfance, il y avait dans le métro, Place d'Italie, un joueur de scie.
Oui.
Et la scie a enchanté ma vie. J'ai toujours rêvé d'ailleurs de prendre une scie et de prendre un archet, mais bon, ce n'est pas mon type d'instrument de musique. Et, la scie m'a mis en vibration et sa manière de sangloter,
oui.
Et en même temps de filer au fond de la vallée comme un son sans fin. C'est ce que nous avons entendu là.
Absolument, tout à fait.
Et qui met en vibration l'air de telle manière que l'air tout entier devient musique.
Voilà, c'est l'espace et musical.
Tu voulais lire un dernier moment, car il nous reste 2 minutes, 18, 17, 16, et moi j'ai quelques vers à lire.
Ah ben,
je les lis. Ulysse, il nous faudra nous quitter. La terre cesse. Les rats, depuis longtemps, nous ont rongé les cordes, et les mouettes picoré la cire de nos oreilles. Liés par nous-mêmes, c'est trop. Veux-tu que l'on se jette à la mer, librement. J'ai hâte d'écouter la chanson qui tue. Que peux-tu dire après? Je te laisse la parole, cher François Ricaud.
Parfois, il lui arrive d'envier la mort d'un fruit, la chute d'une feuille, le bruit d'un mot blessé qui se recueille avant que de crier. Parfois. Il lui arrive de troubler l'eau d'un étang de son visage. C'est comme si un dieu voulait doubler pour empêcher la fuite son image. L'homme serait-il seul à ne rien savoir quitter, épris de ses racines, comme quelqu'un qui se souvient à peine du pays qui l'avoisine. Parfois aussi, il se demande si ce lui serait très dur de disparaître sans qu'il ait pu, dans l'eau des choses, être le long reflet d'un calme réussi.
Je ne peux que terminer par un vers extrait d'un de mes derniers poèmes. Je me promets de croire aux promesses de l'art d'aimer. Pour répondre à ce désespoir, merci cher François. Merci à Julia qui était présente dans cette émission. Merci à vous tous. Et puis, voici que comme il se doit, je vais bientôt crier. Il me reste 29 secondes, alors du temps, il me reste pour dire vive la poésie et rappeler que c'est Jean-Pierre Ronet qui m'a appris ça, que son fils Blaise continue à gérer le Club des Poètes, rue de Bourgogne. Je vous invite tous à y aller. Et puis à lire ce roman qui vient de paraître, Le Feu et la Rose, de Maud Simoneau, qui montre comment deux orphelins, car c'est l'histoire d'une personne de sa famille, sa grand-mère et le poète Jean Genet, ont habité ensemble l'Auvergne et qu'un jour Jean Genet est parti sans se retourner. Et moi, je ne me retourne pas, sauf pour vous dire « Vive la poésie !»
Vous venez d'entendre Promenade et Flâneries au domaine de poésie dirigée par Pascal Payen à Penzeller. Émission préenregistrée le 12 mars 2026, diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 24 avril de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.